Bonjour et bienvenue sur la radio des freelances, la première radio pour les indépendants. Je m'appelle Dominique Dufour et chaque mois je vous donne rendez-vous, oui à vous les freelances, indépendants et autres entrepreneurs solos. Je vous donne rendez-vous parce que nous sommes plus d'un million en France et personne ne parle de nous. Alors plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse, autant le faire nous-mêmes, non ? Allez, c'est parti pour cette troisième émission de la radio des freelances. Le sommaire de l'émission, un dossier d'abord consacré aux outils du freelance. Aujourd'hui, des outils existent qui peuvent vraiment donner un sérieux coup de boost à notre activité. Pourquoi s'en priver ? Vous écouterez ensuite Julie, qui a passé quelques semaines en Thaïlande et qui nous donnera quelques trucs très précieux pour bien travailler quand on est en déplacement. Et la crise dans tout ça, on en parle, mais concrètement, a-t-elle des effets sur nos activités ? Vous écouterez des freelances qui, vous le verrez, sont assez partagés sur le sujet. Voilà, c'était le sommaire de la troisième émission de la radio des freelances et on attaque tout de suite avec notre dossier. Notre dossier, c'est sur les outils du freelance. Aujourd'hui, il existe de nouveaux outils qui nous permettent d'être plus efficaces dans notre quotidien, qui nous aident à mieux gérer nos projets, à nous simplifier la facturation. Des outils finalement pour travailler différemment et mieux. Dans ce dossier, je vais en passer quelques-uns en revue, histoire de vous les faire découvrir et de vous donner peut-être l'envie de les tester. Le premier d'entre eux s'appelle Iscriba. C'est un service de facturation en ligne co-créé par Mathieu Fauveau. De la fiche client au devis, de la facture à son règlement, son service permet de tout faire sur Internet. Quels sont les avantages à utiliser ce genre de service ? Est-ce fiable, sécurisé ? Le point avec Mathieu Fauveau.
Alors, un des tout premiers avantages, c'est surtout le coût, parce qu'en fait, on paye un abonnement. Donc, c'est vrai que contrairement au logiciel standard où on paye à l'année, il y a une petite différence à ce niveau-là, mais c'est intéressant au niveau comptable parce que on arrive à suivre. Enfin, c'est pas des coûts importants, c'est des coûts réguliers, mais qui sont pas importants. Et on paye on profite de l'évolution du logiciel tout au long de l'année. Et donc, on n'est pas obligé d'acheter une nouvelle version tout le temps. On n'est pas obligé d'acheter du support, puisque le support est inclus. Donc ça, c'est les avantages, on va dire, financiers. Après, il y a aussi les avantages, tout simplement, d'efficacité dans l'entreprise, puisqu'on travaille beaucoup plus vite avec un logiciel comme Iscriba, parce que on gagne du temps au niveau de la réalisation de devis, puisqu'on peut dupliquer des devis existants, on peut travailler comme ça. Et il y a aussi, également, le gain de temps, parce qu'en plus c'est utilisable de n'importe où avec n'importe quel périphérique qui peut se connecter à Internet finalement. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, surtout pour les gens qui voyagent, mais aussi pour les commerciaux. Tout simplement, en entreprise, on peut prendre son iPad et consulter les devis qu'on a déjà fait pour des clients et puis négocier avec son client comme ça en direct en ayant des vrais chiffres sous les yeux et des chiffres actuels surtout.
Et aussi, il y a un avantage aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait aussi que tout est stocké, mais pas chez toi. Tout est stocké sur Internet. Donc, d'une certaine façon, tu te fais voler ton ordinateur, tu le casses, ton disque dur crash. T'as pas perdu toute ta facturation depuis des mois, voire des années.
C'est assez intéressant que tu parles de ça, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir la démarche complètement contraire à la tienne, c'est-à-dire qu'ils vont dire moi, mes données, elles sont plus sécurisées dans mon entreprise que chez Iscriba ou ailleurs. Et en fait, c'est vrai que c'est une réalité qui est fausse, parce qu'en fait, évidemment, comme tu disais, tu peux te faire voler ton ordinateur, mais tu peux aussi être cambriolé dans ton entreprise, il peut y avoir le feu. Mais au-delà de, d'événements naturels comme ça, tu peux tout simplement avoir ton disque dur qui tombe en panne. Et la majorité du temps, on ne peut pas récupérer les données qu'il y a dessus. Alors que, effectivement, quand tu travailles avec un logiciel en ligne, on est sur le cloud, et sur le cloud, les données sont sauvegardées en permanence, quoi, ouais. Et en direct.
Ouais, je trouve ça 10 fois plus sûr de mettre tout ça sur Internet plutôt que de mettre ça sur mon ordinateur. Mais bon, c'est aussi une des raisons pourquoi j'utilise la facturation en ligne.
Oui, complètement. De toute façon, je pense que c'est un des avantages majeurs de toutes ces solutions sur le cloud. C'est vraiment ça. C'est que faut savoir quand même qu'on a des, en tout cas, c'est le cas pour Iscriba, mais on a des technologies RAID qui sont, là, on est sur du RAID 60. C'est le coût en entreprise pour avoir ça chez soi. C'est un coût qui est vraiment inaccessible pour des freelances. Et aujourd'hui, ils peuvent l'avoir en utilisant des services en ligne. Et c'est la même chose. Quand on va utiliser Google Documents ou Gmail, c'est vraiment des données qui sont sûres.
Il y a aussi un autre point que je trouve intéressant avec tous les services de facturation en ligne, c'est la possibilité aussi d'avoir tu vois, une espèce de pilotage via des camemberts de son activité. Savoir, grâce au montant de factures qu'on a émises, etc., voir un petit peu comment se ventile notre activité, les services les plus vendus, les clients qui nous rapportent le plus, ceux qui nous rapportent le moins, etc. C'est aussi un avantage. Est-ce que tu proposes ça ou comment
alors, effectivement, pour l'instant, on le propose pas. On en avait déjà parlé tous les deux. On a la chance d'avoir une application qui a été produite avec notre API qui s'appelle Statiscriba, qui propose un ensemble de graphiques justement pour suivre son activité. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant de pouvoir voir quels sont les clients les plus performants, enfin ceux qui signent les devis le plus vite. Ce genre d'informations qui sont capitales justement pour la réussite d'une entreprise. Mmh. Savoir avec qui travailler et quels sont les meilleurs clients finalement.
Mmh. Alors sinon, si on revient sur des choses un petit peu plus concrètes, est-ce que tu as des conseils à donner aux freelances qui nous écoutent sur comment faire un bon devis ou établir une bonne facture ? Est-ce qu'il y a des choses qui des incontournables qui étaient un peu un pro du devis et de la facture finalement ?
Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a effectivement des incontournables. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'en France, il y a des lois et il y a des mentions obligatoires à faire figurer aussi bien sur les factures que sur les devis. Et il faut savoir également qu'il y a beaucoup de choses. Bon, ce serait très long de lister tout ce qui est obligatoire au niveau des mentions générales sur les factures et devis. Pour ça, je vous invite à consulter l'aide sur le site Iscriba. Mais il y a des choses importantes. Il faut savoir, par exemple, qu'un devis engage le client, mais engage aussi le prestataire. C'est-à-dire qu'un devis signé avec la mention « lui est accepté », c'est un contrat, en fait. Et on ne peut pas renégocier les prix derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que devant un tribunal, si le client a signé un devis avec un service qui est facturé 10 euros de l'heure et que vous voulez lui faire à 15 euros de l'heure, il le paiera 10 euros de l'heure, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc il faut être très vigilant, il faut prendre son temps pour faire des bons devis parce que les clients sont très demandeurs et puis surtout sur un marché où il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, il faut justement veiller à faire des devis très précis parce que les clients ont de plus en plus tendance à demander à 3-4 personnes et puis à comparer les devis entre eux avant de prendre une décision.
Ok, sinon une dernière petite question, comment tu sens un peu le marché du freelancing aujourd'hui en France ?
Bah écoute, je pense qu'on a je pense que ça évolue dans le bon sens. On a beaucoup d'évolutions, puis il y a beaucoup de nouveaux métiers. Moi, je vois beaucoup de community managers maintenant. C'est vrai que c'est un métier qui n'existait pas il y a un an, et puis là, on en voit de plus en plus parce qu'on a des entreprises qui prennent conscience finalement de tout l'intérêt qu'il y a autour des médias sociaux, et puis finalement, ils finissent bien par se rendre compte que la publicité traditionnelle fonctionne pas forcément aussi bien que les médias sociaux. Et donc on voit quand même beaucoup de petits métiers comme ça. Et pour nous, dans notre cas aussi, au niveau de notre entreprise d'informatique, c'est vrai qu'on a beaucoup de freelance au niveau des intégrateurs web, quand il s'agit de HTML, de CSS, ce genre de choses. Il y a de plus en plus de développeurs, en tout cas, qui se sentent pas à l'aise dans une structure d'entreprise traditionnelle et qui préfèrent travailler en indépendant. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que je suis un fervent partisan du travail à domicile. Et je pense qu'on est beaucoup plus efficace dans ces cas-là.
Après Iscriba, passons à l'un des plus célèbres outils de gestion de projet en ligne, Basecamp. Alors Basecamp, c'est un outil qui vous permet de gérer vos projets sur Internet. Je l'utilise très régulièrement, soit seul, soit avec d'autres freelances. Pour nous en parler, j'ai demandé à Heather Valentin, une freelance que je connais bien et avec qui j'ai déjà travaillé sur des projets en utilisant justement Basecamp. Heather Valentin.
Alors, je suis chef de projet web, développeur côté serveur, alors, côté client, je veux dire. Ça veut dire développeur au front, HTML, CSS, JavaScript, etc. Mais principalement, je gère les projets avec d'autres freelances pour l'instant, au moment.
D'accord, ça fait combien de temps que tu exerces ton activité ?
Ça fait 7 ans que je suis développeur front et ça fait environ 3 ans que je travaille en équipe avec d'autres freelances en tant de chef de projet.
D'accord. Donc moi, si pu t'interviewer pour cette émission de la radio des freelances, c'est parce que on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble sur certains projets et on utilisait tous les deux Basecamp.
Oui, exactement. Alors,
voilà, moi j'aime beaucoup l'outil, mais bon, si je dis que j'aime beaucoup l'outil, bah, ok, on va me croire, mais si c'est quelqu'un d'autre comme toi qui l'utilise au quotidien pour tes projets, ben on va peut-être plus nous croire. Alors, raconte-nous un petit peu comment, à quoi ça sert Basecamp déjà, et comment tu l'utilises avec tes clients et sur les projets. Alors déjà, à quoi ça sert ?
Alors, pour moi, Basecamp, ça sert vraiment à gérer un projet en équipe, de faire tout le suivi, de, en gros, en faire participer le client dans notre équipe aussi. C'est vraiment pour gérer le projet de A à Z dans un projet web.
D'accord. Donc, c'est une application, en fait, qui est sur Internet ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut y mettre sur cette parce que tu me dis qu'on peut tout gérer le projet, y inclure ses partenaires et même le client. Concrètement, comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs options sur Basecamp. Alors, on peut avoir les messages un petit peu comme dans les emails. Par contre, ils sont consultables en ligne. Alors, de n'importe où, on peut avoir un suivi de conversation par message. Messagerie, qui permet aussi pour moi, mon équipe et les clients de revenir même un mois après, de suivre certains messages, des fois, par exemple, les codes pour l'hébergement, les codes FTP, etc. On a aussi les tâches à faire au quotidien, qu'on peut chacun mettre dans l'équipe, et on reçoit les notifications en messagerie, en boîte email. On a les échéances aussi, avec les notifications pour bien mettre, avoir le projet à jour, et finir dans les bons temps. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand je travaille, par exemple, dans un contrat de maintenance, on peut compter le temps. Et par la suite, j'exporte ce temps pour faire la facturation avec Canibill.
D'accord. Donc, c'est vraiment un outil qui te permet de communiquer, de voir l'avancée du projet, de communiquer avec tes partenaires, le client, d'avoir en tête les jalons du projet. De les mettre dans le temps. Et aussi, ce que moi j'aime bien chez Basecamp, c'est comme ce que tu disais un petit peu au début, c'est que ça sert aussi à concentrer toutes les conversations et tous les documents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, enfin, on s'envoie encore des mails, mais au moins, si on veut retrouver, comme tu disais, par exemple, l'adresse ou les codes d'un FTP il y a deux mois, il faut retrouver dans les mails, alors que là, tout est bien stocké, rangé, classé, et ça nous fait gagner du temps.
Oui, surtout pour les fichiers, par exemple les fichiers images ou PDF. J'ai un client la semaine dernière qui était allé sur son projet Basecamp, qui a trouvé très facilement un JPEG à envoyer au graphiste qu'on l'avait fait il y a 6 mois. Alors tout est déjà là, stocké. Si on avait changé d'ordinateur, si on trouve très facilement tous les fichiers, les documents, même visuellement, on les voit dans un format qui est assez sympa.
D'accord. Et moi, je sais que j'essaye de travailler au quotidien avec cet outil, mais est-ce que tu rencontres parfois des clients à qui il faut que tu expliques comment ça marche, que tu dois convaincre un petit peu d'utiliser cet outil pour travailler avec toi ?
Oui, tout à fait. Des fois, il y a des clients qui ont un peu peur, qui connaissent pas le logiciel. Mais ce que je trouve vraiment très très agréable avec Basecamp, que les clients n'aient pas besoin d'aller sur le site, ils peuvent communiquer tout simplement par email, et c'est enregistré en direct sur le logiciel en ligne. Alors un client qui ne veut pas forcément aller chercher des fichiers, des choses comme ça tout seul au départ, je trouve que bon, par la suite, après ils y vont et ils communiquent par email. Alors ça, c'est doucement au départ, et après, par curiosité, il peut aller un petit peu sur le logiciel qui est qui est assez simple, mais ça peut faire peur au départ pour des clients qui n'ont pas l'habitude.
Mmh. Est-ce qu'il y a des clients qui maintenant ne jurent que plus que par Basecamp depuis qu'ils ont travaillé avec toi avec cet outil?
Oui, oui, c'est tout à fait. J'ai des clients, j'en ai une en particulier qui me disait qu'elle était complètement allergique à tout ce qui était Internet, logiciel et tout ça. Et maintenant, c'est même elle qui met les tâches, qui met un petit peu les choses à faire en termes de maintenance que j'ai besoin. Alors, c'est très agréable parce que le client, il peut suivre vraiment l'évolution du projet en temps réel avec moi et mon équipe. Mmh. On a aussi la possibilité d'avoir des fonctions privées pour que les personnes, que les freelances qui travaillent dessus, qu'on peut avoir des conversations privées pour pas tout mélanger.
Mmh. Oui, parce qu'on peut effectivement, par exemple dans la messagerie, n'adresser que des messages, par exemple pour les graphistes, d'autres que pour le client, et chaque personne est bien définie dans la réception des messages. C'est-à-dire on ne mélange pas tout.
Voilà, on mélange pas tout, et comme ça les personnes concernées ils voient bien. On peut aussi ajouter et retirer les personnes dans un projet à n'importe quel moment. Par exemple, pour un projet e-commerce, on a souvent, par exemple, le banquier qui a accès au projet à un moment donné quand on a besoin de son intervention pour bien regarder que le e-commerce il fonctionne. Et après, on peut le retirer par la suite.
Alors. D'accord. Et en discutant pour préparer cette petite interview, tu m'as dit Basecamp, ça m'a sauvé plein de fois la vie.
Ah oh oui, Basecamp, c'est vraiment ma tête maintenant parce que surtout quand je suis sur plusieurs projets et des fois l'équipe change. La fait d'avoir les notifications par email, aussi on a un petit bilan qu'on peut avoir pour la semaine. Alors le lundi matin, je vois un petit peu tout ce que j'ai à faire. Basecamp, il est là pour me rassurer et me dire ce que j'ai à faire et où ils sont mes coéquipiers. C'est vrai, c'est pour moi sans Basecamp, je ne sais pas comment je pouvais gérer les projets web.
Et voici la dernière interview de ce dossier. Emmanuel Guetta, un auto-entrepreneur qui fait de la maintenance d'ordinateurs à domicile et de la formation. Pour gérer et développer son activité, il utilise son iPad couplé à son iPhone. Un duo gagnant qui l'aide à optimiser considérablement son quotidien.
L'iPad, c'est un peu comme un bureau nomade en fait. Il est synchronisé, comme je disais, avec mon téléphone et mon ordi de bureau. En général, je me sers du téléphone pour prendre rapidement les rendez-vous et les noms des contacts des gens qui m'appellent. L'iPad, automatiquement, à partir du téléphone, ils sont transférés dans l'iPad et l'iPad est plus confortable et disons plus transportable que l'ordi de bureau et plus confortable que le téléphone. Donc c'est vraiment un outil assez...
Donc on va faire une petite journée type d'Emmanuel. Donc là, tu as ton application, le calendrier.
Voilà.
Donc on voit ton actualité sur la semaine, mm-hmm. les interventions que tu dois mener. Par exemple, là, il va être 16h et à 17h, tu dois aller chez un client. Voilà. Alors comment ça se passe avec ton iPad? Est-ce que tu as un suivi client? Est-ce que tu as un historique des interventions que tu as fait chez ce client? Comment tu factures derrière? Est-ce que tu utilises l'iPad entièrement pour faire toutes ces opérations?
Donc en fait, je prends le calendrier, je prends le prochain rendez-vous. J'ai un fichier client dans lequel j'ai l'adresse du client, son numéro de téléphone, son mail, les anciennes interventions.
Tu utilises une application particulière pour ça?
Non, pour ça j'utilise l'application de contact du téléphone, de l'iPad quoi, en fait.
D'accord. Donc chaque contact est renseigné par...
Oui, dans les notes. Voilà. D'accord. Et en plus, ils sont aussi dans mon outil de facturation, ils sont quand même aussi répertoriés dedans.
D'accord. Donc tu vas chez ton client. Donc j'imagine qu'avec l'iPad, tu sais où il se trouve.
Voilà, donc j'ai son adresse. En cliquant sur son adresse, j'ai déjà... Une indication géographique par rapport aux autres clients. Donc parfois il m'arrive de changer un rendez-vous de place pour avoir une espèce de d'itinéraire cohérent.
Alors, si tu as plusieurs clients dans le même quartier,
j'essaye de les regrouper, et ce qui est assez pratique puisque le calendrier, changer un rendez-vous de place est assez pratique dans l'application du calendrier, quoi. Donc ensuite, je me déplace en transport en commun.
D'accord.
Donc il y a des applications, je pense que la celle de la RATP est quand même incontournable, qui me permet, entre chaque client, de mettre une adresse de départ, une adresse d'arrivée, et il me donne l'itinéraire le plus rapide, ce qui permet encore d'optimiser encore plus la journée, quoi.
D'accord. Donc une fois que tu es chez le client...
Bah, chez le client...
Tu tombes sur un problème que tu connais pas.
Voilà.
Ou une panne.
Donc, chez le client, bon, en général, je maîtrise ce pourquoi on a fait l'appel à moi. Donc, je viens. Mais il arrive parfois que sur certaines pièces ou certains démontages, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Donc, il y a des applications qui permettent d'avoir des manuels. Il y a toujours accès à Internet, puisque j'ai un iPad en 3G. Et pourquoi pas aller sur quelques forums pour avoir une information précise sur un problème qui serait assez isolé, quoi.
D'accord, donc concrètement, tu vas chez le client, il y a un problème que tu n'avais pas prévu ou une panne que tu n'avais pas identifiée au préalable. Mm-hmm. Sur le lieu même, tu peux tout de suite trouver les bonnes infos.
En général, ça marche toujours.
D'accord, donc ton client t'est intervenu, donc maintenant vient le temps de la facturation.
Non, oui, enfin avant, il y a autre chose. Je peux, par exemple, je ne facture pas les pièces informatiques. Je facture. Par contre, je peux faire une estimation du devis s'il y a une pièce à changer en allant sur les sites commerçants et en trouvant la meilleure pièce au meilleur prix. À partir d'un site internet de plusieurs fournisseurs. Client, voilà, tout ça.
Tu dis concrètement, ça prend à peu près combien?
Voilà, en comptant les pièces, en comptant mon intervention, je peux facturer.
D'accord, donc c'est intéressant. Donc après, ton devis en fonction des pièces, après, tu peux facturer directement chez le client.
Voilà, je facture. Il y a des sites internet, Mon AE, Factomos, qui permettent de gérer, d'avoir une compta, de gérer les clients, de facturer. Ça enregistre les cotisations sociales, donc ça s'occupe de tout gérer, pour il n'y a presque rien à faire, en fait.
D'accord. Et tout ça toujours depuis ton iPad.
Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est comme tu as l'appli de ta banque.
Voilà.
Ce qui te permet de checker les mouvements, les règlements, comment ils ont été faits, etc., etc., j'imagine.
Voilà. Donc je peux gérer mon budget, je peux voir où j'en suis financièrement sur le mois ou plus loin. Je peux voir si j'ai été payé.
Donc sans iPad, tu serais mal, hein.
Disons que je serais pas mal, mais disons que j'aurais pas une productivité aussi optimisée, on va dire.
Ça t'a vraiment fait gagner beaucoup de temps.
Ah, mais énormément. Mais je souligne quand même à chaque fois que c'est quand même l'iPhone plus l'iPad, parce que l'iPad, je le sors pas non plus en permanence. C'est vraiment quand je suis en semi-sédentaire, l'iPad. Je peux également intervenir en prenant la main sur un ordinateur à distance avec un iPad, quoi.
D'accord. Il y a des applis
qui permettent de prendre le contrôle d'un autre ordinateur pour certaines interventions qui ne seraient pas mécaniques.
D'accord. Donc, alors qu'avant, tu étais obligé de te déplacer.
Voilà.
Avec cet outil, tu peux.
Voilà. Puis avec l'appli PayPal, je peux également me faire payer à distance sans avoir besoin de me déplacer physiquement.
D'accord. Ok, merci Emmanuel.
De rien.
Julie est freelance à Bordeaux et dans un mois, elle et Vincent s'en vont travailler en Asie pendant 6 mois. Avant ce grand départ, elle a passé 3 semaines en Thaïlande, histoire de se roder et de commencer à expérimenter l'entrepreneuriat nomade. Elle en revient avec des enseignements pratiques, concret pour bien travailler avec ses clients quand on est en déplacement. Julie Baudouin.
Alors, donc je suis rédactrice web et j'ai pour projet de partir 6 mois en Asie pour faire de l'entrepreneuriat nomade. Donc l'entrepreneuriat nomade, en fait, c'est continuer à travailler tout en voyageant, grâce notamment à tout ce qu'on tout ce qu'on peut avoir avec le Wi-Fi, la dématérialisation et tous les outils en fait d'aide au nomadisme.
D'accord. Donc ce grand projet de qui va durer 6 mois, c'est quand que tu pars ?
Alors on est deux à partir et on part le 8 mars. Jusqu'au 4 septembre.
D'accord. Et donc là, tu reviens de Thaïlande où tu as fait un petit voyage d'exploration, on va dire ça, exploratoire.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Enfin, des vacances, tu veux dire. Non, je rigole, mais.
Bah, en fait, aussi à la base, effectivement, c'était des vacances, normalement.
D'accord.
Mais quand le projet de 6 mois a abouti, où on s'est dit, bon, ça y est, on part, finalement, on s'est dit, bon, bah, les vacances en Thaïlande, ça pourrait être l'occasion d'avoir un premier test avant de partir 6 mois, parce qu'il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé, des difficultés qu'on pourrait avoir, et donc là ce serait l'occasion de se mettre en pratique pendant 3 semaines. Donc c'était vacances et travail, c'était pas exactement que travail, quoi. Mais bon, au moins ça nous a permis de voir qu'il y avait des petites choses à améliorer, et puis ça nous a permis aussi de rencontrer un entrepreneur nomade qui est assez connu aux États-Unis, qui s'appelle Cody McKibben, et en fait qu'on a rencontré là-bas parce qu'il habite là-bas depuis 3 ans, et donc c'était l'occasion aussi d'échanger avec lui sur tout ça, quoi.
Alors revenons sur le travail, parce qu'on va pas parler de tes vacances en Thaïlande, hein. Ça t'a permis justement de vérifier quelques petits trucs. Quel truc en particulier par rapport à tes clients, par rapport à la façon de travailler, qu'est-ce que tu as pu remarquer, qu'est-ce que tu as pu anticiper qui te serviront justement pour ton prochain départ au mois de mars? Concrètement, qu'est-ce que tu as observé?
Alors concrètement, il y a plusieurs petites choses. Alors, il y a des choses techniques et puis il y a des choses pratiques, on va dire. Côté technique, par exemple, on s'est rendu compte que c'était très très pratique d'avoir le Wi-Fi dans sa chambre. Sauf que en fait, c'est assez rare les hôtels qui proposent le Wi-Fi dans la chambre. Souvent, on a le Wi-Fi dans le café ou à l'accueil, mais rarement dans la chambre. Et pourtant, quand on doit travailler le soir, quand on a une conférence téléphonique ou autre, on se rend compte que quand on doit être réveillé à 23h, parce qu'avec le décalage horaire avec la France, on est content d'avoir le Wi-Fi dans sa chambre. Donc ça a été un peu notre recherche de Wi-Fi dans la chambre pour être au calme, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est de donner des créneaux horaires à ses clients quand on doit les appeler, parce qu'en fait on s'est rendu compte plusieurs fois que en fait on donnait des rendez-vous fixes. Par exemple, je vous appelle à 16h, sauf que quand on est à l'étranger et qu'on visite aussi, qu'on bouge, qu'il y a les aléas du direct, comme on dit, en fait, ça nous est arrivé plusieurs fois d'être un peu en panique sur les horaires, parce que un bus en retard, parce que finalement Internet qui capote, parce que plein de petits aléas qu'on peut avoir. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en donnant un créneau horaire, je vous appelle entre 15h et 16h, c'est tout bête, mais ça enlève, un, beaucoup de stress, et deux, on est sûr d'appeler au bon moment. Et puis surtout que ça soit nous qui appelions et pas le client qui nous appelle. C'est pareil, ça, c'est quelque chose, ça paraît tout bête, mais en fait, au moins, on est sûr que nous, quand on appelle, on est bien installé, la connexion fonctionne, que tout soit OK, qu'on soit dans un lieu assez calme. Parce que pareil, ça nous est arrivé que ce soit le client qui nous appelle et en fait, qu'entre-temps, on n'avait pas réussi à trouver un lieu calme. Donc, il faut rappeler plus tard. Donc, ça, c'est des petites choses, mais au final...
Ça fait perdre du temps, c'est stressant.
Ouais, voilà. En fait, c'est plus ça, c'est stressant parce que les connexions ne sont pas toujours super. En tout cas, en Thaïlande, ils n'ont pas encore une 3G super efficace, par exemple. Donc, ça nous est arrivé plein de fois d'avoir des connexions vraiment limites, quoi. Donc quand c'est nous qui appelons, c'est nous qui donnons un créneau horaire, déjà, c'est beaucoup plus flexible, quelque part, et plus simple à gérer.
D'accord. Et c'est arrivé que tu n'aies pas pu vraiment passer un coup de fil parce que ta connexion était vraiment pas bonne.
Ça m'est arrivé deux fois. Une fois où en fait j'avais rendez-vous à 16h avec un client, donc pour moi il était 22h. Et en fait, je pensais que la connexion était bonne puisque on arrivait à surfer sans problème. Et en fait, l'appel par Skype a été catastrophique. Donc au bout de 2 minutes, on a laissé tomber parce que ça coupait tout le temps. Et au final, on a continué par mail. Et une deuxième fois où on avait rendez-vous. Alors là, il est, pour nous, il était 1h du matin. Donc on a eu un problème, c'est qu'en fait, tout ce qui était cybercafé et le lieu où il y avait Internet dans notre guest house fermait à minuit.
D'accord.
Et sauf que nous, le rendez-vous, c'était à 1h du matin. Donc on a eu un gros coup de stress et au final, ça s'est terminé par l'achat d'une carte SIM avec un forfait Internet. Où on a mis du crédit et avec notre smartphone on s'est connecté en fait depuis la chambre d'hôtel.
D'accord.
Donc c'est aussi un bon moyen de finalement d'avoir internet un peu partout quoi. Donc bon, ça nous a appris des choses au moins.
Oui, non, mais c'est clair.
Et puis après, bon, il y a des petites choses pratiques comme par exemple avoir des pochettes pour ranger tous ces câbles. Alors ça paraît bête comme
les
ça.
Pochettes. Raconte-nous les pochettes.
Ça paraît vraiment bête.
Non, je connais ça.
En fait,